Donc, je dis qu'on allait étudier aujourd'hui Bezrat Hashem Al-Yashir. D'accord? Et on va essayer de parler un petit peu aussi dans le cours de Rabbi Meir Balanes.
Merci beaucoup.
Alors, Al-Yashir Moshe, il y a plusieurs manières d'expliquer le Al-Yashir. Il y a la méthode de Rashi, la méthode du Mechilta, etc. On va essayer de faire un petit mélange de commentaires entre Rashi, qui correspond au Pshat. Et ce qui est assez particulier dans la Shira, c'est que Rashi ramène beaucoup de Midrashim sur la Shira. C'est un petit peu comme pour nous dire que celui qui étudie la Shira simplement avec la traduction, il est à côté de la plaque. Parce qu'il y a énormément de messages, vous allez voir, plein de choses que, oui, si on le traduit, on le voit pas. Et c'est uniquement quand on voit les Mefarshim qu'on dit « Ah, c'est ce qu'il voulait dire ». D'accord ? Donc on va essayer d'étudier ça ensemble. Mais avant de faire le Hazyashir, on va d'abord faire le Vayosha, qui est l'introduction de la Shira. D'abord, on nous raconte que « Vayosha Hashem Bayom Ahou ». Alors le mot « Vayosha » en hébreu, ça veut dire « sauvé ». Mais ça veut dire soit « il a été sauvé », ou soit il l'a sauvé. Donc on dit que Dieu, alors, a priori, puisqu'on parle de Dieu, c'est évident que Dieu n'a pas été sauvé. Dieu a sauvé. Eh bien, sachez que le Mefarshim explique que, quelque part, Dieu a également lui-même été sauvé. Et qu'il n'était pas tranquille tant qu'Israël n'était pas sauvé. C'est pour ça que le Vayosha est un terme qui se comprend de deux manières. Soit il a sauvé Israël, soit il a lui-même été sauvé. Donc, Vayosha Hashem Bayom Ha'u et Israël Miad Mitzrayim. Ce jour-là, donc je vais reconstituer rapidement. Les Bnei Israël, on est le 7e jour de Pessah. Combien de jours avant on est sorti d'Égypte? D'accord? Combien de jours avant on est sorti d'Égypte?
7 jours avant.
D'accord? On est sorti d'Égypte 7 jours avant. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que ce jour-là, Hachem a sauvé Israël des Égyptiens. Alors, le Farchim pose la question, ils disent, mais je comprends pas, les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ça fait déjà 7 jours. Pourquoi tu dis que ce jour-là, ils sont sortis? Alors, explique le Midrash, Rashi aussi, il explique ça. Il dit que les Juifs, pendant 7 jours, ils n'étaient pas tranquilles. Parce qu'ils savaient, ils avaient l'angoisse que les Égyptiens vont revenir, ils vont les attaquer, ils vont les arrêter. Donc ils n'étaient pas tranquilles. Ça veut dire que techniquement, ils étaient peut-être dehors. Mais dans la tête, moralement, ils n'étaient pas dehors.
Mais même physiquement,
ils étaient dehors. Ah oui, donc mais techniquement, ils sont sortis d'Égypte.
Dans les camps, c'était comme ça. Quand ils étaient libérés.
Une ombre qui les accompagne.
Ils ont eu peur, voilà. Ils ne voulaient pas bouger, ils croyaient que c'était dur, qu'ils allaient revenir.
Donc, Vayom Ahou et Israël Miad Mitzrayim. Donc, ce jour-là, Dieu a sauvé Israël de la main des Égyptiens. Qu'est-ce qu'il a fait? Vayar Israël et Mitzrayim met al sefat ayam. Comment Israël a été tranquille? Parce que, vous savez, le visuel est très important dans les choses comme ça. Akadosh Baruch Hu a fait un miracle que le corps des Égyptiens est remonté tout de suite à la surface. Pourquoi il a fait ça? Pour qu'on voit des corps? Parce que les Juifs avaient besoin de voir les Égyptiens morts. Et ils les ont reconnus en plus, parce qu'ils les connaissaient. Celui-là, c'est celui qui me frappait, celui-là, c'est celui qui me... Ils les ont reconnus. Pas Chas Veshalom pour voir des corps morts. Parce que les Bnei Israël, sans ça, ils n'étaient pas tranquilles.
Les Juifs des camps reconnaissaient leur bourreau 30 ans après.
Bien sûr.
En les croisant dans une rue.
Mais dans les photos même.
Ah oui.
Donc, ben oui. Non mais c'est intéressant, parce que Rashi explique que le visuel était important.
Tu te rappelles le film Marathon Man?
Donc, elle c'est pas Tayam. Il y a un autre midrash qui explique, Rashi ramène ce midrash aussi, qui dit que quand on dit que Israël a vu l'Égypte mort, parce que le sens, la traduction littérale de ce qui est dit ici, c'est Israël a vu l'Égypte morte sur le bord de la mer. Alors moi j'ai traduit l'Égypte par les Égyptiens. Mais il y a un autre midrash qui dit non. Qui dit qu'en vérité c'est quoi l'Égypte? D'accord? Non, c'est quoi l'Égypte? L'Égypte c'est le Sar Shel Mitzrayim. J'explique. Chaque peuple un sar, un prince qui le représente. Attendez.
Un prince céleste.
Et Rashi explique, c'est Rashi. Il dit que Israël a vu le prince de l'Égypte mort, ça veut dire chaos, sur le bord de la mer. Là, il a compris que ça veut dire qu'on allait nous laisser tranquille. C'est un midrash. Mm-hmm. Ça veut dire que, encore une fois, ce qui se passe matériellement représente ce qui se passe spirituellement. On continue. Vayar Israël et Ayad Agedola. Israël a vu la grande main. Alors, Israël, c'est qui Israël?
Le peuple.
Le peuple. Eh bien, encore une fois, Rashi dit attention. Israël veut dire aussi Yaakov. Oui, Yaakov Avinu, qui attendait. Il ne lâchait pas Kadosh Baruch Hu. Il disait, attends, t'as promis, j'attends. Et là, Vayar Israël, Yaakov a vu. Alors, je rachis même ça. Et Tayed Agedola, la main, la grande main. Bien sûr, Israël, ça veut dire aussi le peuple d'Israël. Mais ça veut dire aussi Yaakov. Vous voyez, plein de messages comme ça dans l'Aziachir. Ici, on n'a pas les Mefarshim, on est à côté de la plaque. Donc Vayar Israël et Tayad Agedola, il a vu la grande main, ça veut dire la main puissante d'Akadosh Baruch Hu, Asher Asa Hashem et Mitzrayim, il a vu ce que Dieu a fait aux Égyptiens. Vayar Ewaam et Hashem. Et donc, l'effet qui a été obtenu tout de suite, c'est que le peuple a eu une très grande crainte d'Akadosh Baruch Hu, mais une crainte révérentielle, pas une crainte de la peur, il va nous frapper à nous aussi. D'accord? ils ont compris que là, vraiment, ils ont senti la Kdusha. Comme on expliquera dans la Diachir, que les Bnei Israël, à ce moment-là, ils ont vu une présence de la Shrina extraordinaire qu'aucun prophète n'a vu par la suite. Et donc, il y a eu une crainte énorme à ce moment-là.
Mais c'est quoi le Het?
C'est là, c'est le. Enfin, là, il n'y a pas de. Il n'est pas entre le mot d'ici.
Am Het Hashem.
Enfin, c'est pas, ça se dit pas, on va Yiru Am Hashem.
Bon.
Là, le mot Het, il n'est pas entre ici. Vayiru Am Et Hashem. Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo. Ah. Et donc, du coup.
Finalement, j'en crois.
Premier effet.
Cette fois, c'est sûr.
Ils ont eu la crainte. Ils ont eu la crainte de Dieu. Deuxième effet. Ils ont eu la Emouna en Dieu et en Moshe. Alors, c'est quoi? Pourquoi en Moshe? Parce que il faut savoir que juste avant de traverser la mer Rouge, c'est très bien que les Bnei Israël, il y avait une crise de confiance.
Il n'y avait rien de sûr.
Quand on dit où tu nous amènes, ça fait même pas une semaine qu'on est sorti, où on va aller, on va mourir, on aurait préféré rester en Égypte, enfin ils sont mis à lui taper dessus. Et là, dit le verset que là, après ça, là les Bnei Israël, ils ont cru en Dieu, mais ils ont cru également, ils ont eu la confiance en Moshe Rabbeinu, son esclave. Alors, le Midrash, il rajoute la chose suivante, il nous dit, c'est pour nous dire, puisque, donc là, je vais faire un petit rapport avec Rabbi Meir Balanes. Dit le Midrash pour nous apprendre ici que Kol Ma'amin Bemoshe Ma'amin Bashem. Que tout celui qui croit en les Tzadikim, comme il explique là-bas le Midrash, c'est considéré comme s'il croyait en Dieu. Ça veut dire qu'il y a des gens, que c'est pas des gens, c'est nous tous, qu'on a du mal à se représenter la Emouna ou à Kadosh Baruch Hu. Donc on a besoin de représenter cet attachement par l'attachement à un Tzadik. Il y a des gens qui n'acceptent pas ça, comme Korar. Il a dit non, moi je. Direct avec la Kadosh Baruch Hu. D'accord? C'est une erreur. C'est une erreur. Les Bnei Israël ont fait la même erreur. On a besoin d'un tzadikim. On a besoin d'un tzadikim, comme il dit le Midrash. Que celui qui croit dans un tzadik, automatiquement, il croit en Kadosh Baruch Hu. Donc si vous entendez des gens qui vous disent, oui, des loulottes, etc., c'est du pipeau, c'est eux qui racontent du pipeau. Au contraire. Le fait de croire en un tzadik, c'est une manière pour nous de croire en Kadosh Baruch Hu. Le fait d'aller au Gvarim du tzadikim, c'est une manière pour nous de prier à Kadosh Baruch Hu au travers de la tombe du tzadik. Oui. Il y a un risque de la tri, bon après... Non,
mais le contraire est vrai aussi.
Il y en a qui préfèrent croire dans un tzadik, genre c'est un magicien, mais il n'y a pas de...
Honnêtement, j'ai jamais vu de gens comme ça, qui croient uniquement en le tzadik et qui ne croient pas en Dieu.
Non.
Vous avez déjà vu des gens comme ça? Moi, j'ai jamais vu.
C'est une démarche pas consciente.
Non. Qui croient en le...
de jurer sur les rabbinis, mais jamais ils jurent sur Dieu.
Non. Est-ce que vous avez déjà vu des gens qui croient en les rabbinis, mais qui ne croient pas en Dieu?
Moi, oui.
Bon.
Non, mais on ne doit pas...
D'accord. Ah ben, attendez. Pas possible. C'est exactement ce que dit le Midrash.
Oui, mais c'est naturel chez l'individu. Les gens.
Parce qu'en fait, qu'est-ce que les Bnei Israël ont compris? Mais qu'est-ce que les Bnei Israël ont compris? Les Bnei Israël ont compris que comme ils n'avaient pas assez de Emouna en Moshe Rabbeinu, dès que le premier obstacle est arrivé, c'est pas un manque de Emouna en Moshe qu'ils ont eu, c'est un manque de Emouna en Dieu devant la mer Rouge. Là, ils ont compris que quand on a l'Emouna en Moshe Rabbeinu, quand on écoute ce qu'il dit, quand il te dit fais ci et il faut le faire, bah, automatiquement, c'est l'Emouna en Akadosh qu'on a en même temps. D'accord? Bon.
Moi, je reviens au Vayosha, t'as vu que c'était à double.
Oui.
Comment Dieu peut être inquiet?
Alors, c'est écrit comme ça. Rachid dit Kaviachol Nosha Imaem. Si on peut dire, Dieu a été sauvé avec eux. C'est-à-dire que quelque part, à Kadosh Baruch Hu, il était angoissé pour ses enfants. Bien sûr qu'il savait que ça allait se. Mais il n'était pas tranquille tant que les Bnei Israël n'étaient pas sortis. Et ça veut dire que, comme c'est écrit, il y a un autre endroit dans la Gemara Brachot qui dit Galou le Edom, Shrina Imaem. Que plus tard, on dira que lorsque les Bnei Israël ont été exilés à Edom, d'autres églises d'aujourd'hui, Shrina Imaem, la Shrina est partie avec eux. Comme c'est écrit aussi dans Tehilim, Imo Anochi Betsara. Dieu dit, je suis avec lui, Betsara, quand je suis avec le peuple juif quand il est en galère. Et donc quand on s'en sort, ben lui aussi il s'en sort. C'est ça le principe de Vayesha. Donc vous voyez déjà en quatre lignes le nombre de messages qu'il y a eu que si on prend que la traduction, on est complètement à côté de la plaque. Ah là, on a eu plein de choses. Là, par exemple, Dieu a été sauvé en même temps, le prince de l'Égypte est mort, quand on croit en Moshe Rabbeinu, on croit aussi en Kadosh Baruch Hu. Beaucoup de messages. Bon.
C'est enrichi.
D'accord. Maintenant, attendez.
Les commentateurs ont réfléchi.
Yaakov a vu.
Ah non, pas du tout. Parce que les commentateurs n'ont rien inventé. Parce que le problème, c'est que le texte à la base est ambigu. Il y a beaucoup de mots dans le texte qui ne sont pas clairs. Par exemple, le mot Vayosha en hébreu veut dire deux choses. Ou bien le mot Israël a vu l'Égypte mort sur le bord de la mer. C'est-à-dire quoi? Il a vu l'Égypte mort. Nous, on a traduit littéralement, c'est-à-dire il a vu les Égyptiens.
Ouais.
Eh ben non. Dans ce cas-là, il fallait dire les Égyptiens. Amitsriim, pas Mitsraim. Là, il y a le Midrash qui dit non. Il a vu l'Égypte, ça veut dire le prince qui représente l'Égypte. Il y a beaucoup de... Ça veut dire qu'on n'a rien inventé. On s'est basé sur des allusions dans le texte. Mais il fallait trouver. Alors maintenant, on va commencer la Shira. D'accord? Et c'est pas fini. Ça fait que commencer. Az, Yashir Moshe, ou venez Israël. Az! Alors! Quand on dit alors, ça veut dire c'est le passé ou le futur?
Zen.
C'est zen ou c'est...
Le futur.
D'accord.
Donc.
Alors
bah, c'est le passé.
Hein?
Il y a eu ça, alors il y a eu ça.
Non, mais quand on commence un texte en disant alors, c'est comme ça qu'il...
C'est le futur.
Hmm?
Non, moi j'ai
pas
le futur.
Bon,
ça peut être une conjonction de déduction.
Bon, alors pour l'instant, on ne sait pas. On va faire la suite. Hein? Yashir.
Futur.
D'accord. Alors, Char, ça veut dire il a chanté. Yashir, ça veut dire il va chanter.
Il chantera.
Pourtant, ils ont chanté, là.
Ouais.
D'accord. Alors, chantera Israël. Alors bon, c'est vrai qu'on peut comprendre que, on peut comprendre qu'on veut nous raconter une histoire. Pardon, Moshe est venu Israël. C'est vrai qu'on peut comprendre que chantera, ça veut dire qu'on veut te raconter une histoire, comment elle s'est passée. Ça, même en français, ça peut se dire. Alors, chantera Israël, alors que c'est déjà passé.
Ouais.
Mais bon, c'est écrit au futur.
Ta future intérieure.
D'accord.
Normalement, c'est ça, la future
intérieure. Oui, d'accord, mais là, c'est écrit au futur quand même.
Alors, chantera, normalement. Bon.
Bah oui, pourquoi tu te rends dans une galère? Pourquoi tu dis pas alors Israël a chanté, c'est tout?
C'est quoi le futur intérieur?
Ça veut dire alors chantera. C'est, vous savez, des fois qu'on entend.
Oui, le futur intérieur, ça.
Je sais pas comment on dit en français, mais je sais que ça se dit en français. Ça se dit, c'est-à-dire, des fois, on vous raconte une histoire, et on dit alors chantera Israël, etc. Vous savez, comme à la radio, les compteurs. Alors chantera Israël. Je connais que la radio, hein. C'est la même chose à la télé, mais.
Oui, je dis, alors chanteront...
Non, alors, oui. Oui.
Le futur intérieur, c'est alors chanteré.
Voilà.
Ah.
Moshe et les Israël.
D'accord. Alors, quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est un futur.
C'est du conditionnel, ça.
Non.
Pourquoi c'est un futur? Pourquoi c'est un futur? Alors, écoutez bien.
C'est du conditionnel.
Mais tu peux pas, c'est la première personne avec...
Déjà, avant de commencer la Shira...
Ah, Yoventil.
Bon, peu importe, vous avez compris ce que je veux dire. En tout cas, quoi qu'il en soit, avant de commencer la Shira, je vous ai... La Shira, on va expliquer, comme je dis, selon Rashi, selon le Midrash Mechilta. Déjà, un point très important à comprendre, c'est qu'il faut savoir que les Bnei Israël ont eu Ruach HaKodesh à ce moment-là. Ils ont été inspirés.
Seulement à ce moment-là, parce que...
Non, là, ils ont été inspirés. Là, c'est pas que Moshe qui a été inspiré, ouais, c'est pas que le Tzadikim. C'est tout le monde qui a été inspiré et tout le monde qui s'est mis à chanter la même chose. Comment ça s'est passé, on verra dans la suite. Quand il y en a qui disent que c'était Moshe Rabbeinu qui chantait une partie et que tout le monde répondait un refrain, il y en a qui disaient que tout le monde... s'est mis à chanter en même temps la même chose. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, on sait que tout le monde a été inspiré en même temps.
Oui, c'est d'inspiration divine. Même le chant, il est d'inspiration divine.
Pour avoir le futur intérieur.
C'est le rapport avec Myriam.
Alors chanteur.
Pour l'instant, c'est après Myriam.
Alors chanteur.
Même c'est après.
C'est la traduction française.
Alors, à ce moment-là, Yashir Moshe Uvne Israël. Moshe Rabbeinu chantera. Pourquoi c'est écrit au futur? Explique Rashi. C'est pour nous apprendre. De là, on apprend que quoi? On apprend que lorsque ma chère viendra, d'accord, on refera ce chant.
Voilà.
Alors, vous savez, il faut savoir qu'il y a une machloquette, dans la Gemara, à savoir, est-ce que lorsque ma chère viendra, on mentionnera la sortie d'Égypte, ou bien l'événement de ma chère sera tellement grand que bon, ça sert à rien de rappeler la sortie d'Égypte. Il y a une machloquette dans la Gemara.
Par contre, il y a une relation.
Oui, il y a une relation. Une relation, puisque c'est écrit, le prophète il dit « Kimé tsetra meret mitzrayim arenu niflaot ». Il dit « Comme ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte, je vous montrerai des merveilles en sortant, sortant de la galoute ».
Il dit que c'est...
Ça ressemblera. Mais la question c'est, quel sera le rapport? Ça va ressembler. Alors, il y a une marque dans la Gemara. Comment ils ont traduit ici?
Alors chanta.
Au passé. Oui, parce qu'ils traduisent le sens perceptible. Ils traduisent
oui,
pas
bon.
Le...
Moi je vous dis Rashi, prenez Rashi, si vous voulez prendre Rashi dans Béchala, vous trouverez ce que je vous dis. Donc, le... Il y a une marloquette dans la Gemara, comme je vous ai dit, est-ce que lorsque ma chère viendra, est-ce qu'on se rappellera de la sortie d'Égypte, ou je vais ça paraître un événement tellement petit qu'on ne mentionnera pas.
Ah oui.
Même la vie qui pense, que lorsque ma chère viendra, en maskirin et tiet mitraim, on ne mentionnera plus la sortie d'Égypte, même selon cet avis, la Shira, elle, on la mentionnera. Pourquoi? Parce que la Shira a été dite Beruach HaKodesh par une inspiration particulière, et même lorsque ma chère viendra, on répétera la Shira et on verra encore la particularité de la Shira. Donc, à ce moment-là, lorsque Moshe viendra, Yashir, Moshe ou Bnei Israël, Moshe Rabbeinu chantera encore une fois. Bon, bien sûr, là, il l'a chanté. Mais il chantera encore une fois, Et Ashira avec le Bnei Israël, Et Ashira Azot Lachem, ce chant pour Akadosh Baruch Hu. Donc, comme je vous ai dit, il y a plusieurs avis dans le Midrash. Comment ça s'est passé concrètement, techniquement, à l'Ashira? Il y a un premier avis qui dit que Moshe Rabbeinu et les Bnei Israël, les deux ont été inspirés en même temps et tout le monde s'est mis à chanter en même temps. Ah, Yashir, Moshe ou Bnei Israël, et tout le monde disait la même chose en même temps. Un grand miracle, d'accord? Il y a un deuxième avis qui dit que non, ça s'est pas passé comme ça. Que Moshe Rabbeinu, c'est un petit peu comme on fait dans le Hallel, vous savez, on dit Odecha Kenitani, Vatei Lilishua. Et on répète. Donc il y en a qui dit que ça s'est passé comme ça. Moshe Rabbeinu disait un verset, les Bnei Israël répétaient un verset. D'accord ?
Ce texte-là
a été chanté.
C'est pour ça qu'on le chante.
Avec ces terres-là, bien sûr. Ah, c'est comme j'ai un livre de des histoires de Rabbi Mir Balanès avec la photo de Rabbi Mir Balanès. Je me fais une photo maintenant.
On a même un film.
Je sais pas si c'est un tzadik qu'ils ont repris. Je sais que je dis attends, ils me prennent pour Rabbi Mir Balanès.
Un dessin. Non, c'est ce qu'on appelle un voilà.
Une photo ou un dessin.
Un dessin.
Un dessin. Mais il est là, attends, la façon photo. Je crois que j'ai un des salafistes, j'ai moi.
Et preuve d'artiste.
C'est trop cette illégale.
Voilà. Vous voyez, le dessin de Rabbi Meir Balanès.
Ah oui, on a...
Il ressemble à Schroeskin, ça.
Peut-être qu'il y avait une...
C'est bien fait, hein, d'après la photo,
c'est bien fait. Exactement, c'est ça. D'accord. C'est du bluff, hein.
C'est vrai.
Bah, qui sait.
Non, enfin, c'est un sadique, certainement, peut-être, mais...
Ah oui, c'est la même, hein.
Tu sais, en plus, ils te mettent avec le... avec la mère derrière, tu vois, parce que... Vous avez compris pourquoi la mère derrière?
Non, pourquoi? C'est
Tibériade.
Ah oui.
Zarma, il était au bord de la mer, tu vois.
Mais il a peut-être été inspiré.
Je suis désolé, on ne dit pas Kinériade, on dit Kinérès. Surtout à cette époque. C'est pas encore. Tibère n'avait pas encore été.
Il disait Tibériade.
Tibériade. Alors, oui, je continue. Moshe ou Bnei Israël. Donc, j'étais en train de dire, il y a plusieurs avis. Il y a un premier avis qui dit que la Shira a été dite par les Bnei Israël, comme on a dit, tout le monde a dit mot par mot ensemble. Il y a un deuxième avis qui dit que non. Il répétait pasouk après pasouk. Il y a un troisième avis qui dit non. Qui dit que les Bnei Israël répondaient Ashira Lachem après chaque verset. C'est un peu comme le Amen qu'on dit. Vous savez, il y a un cadavre qui lâche mes rabats, on prend Amen. Alors, il y en a qui disent que comment ça s'est passé? Ah, j'ai cher Moshe ou Bnei Israël, Atashira Lachem, bah, Emrou les morts. Qu'est-ce qu'ils répondent les Bnei Israël? Ashira Lachem. Ensuite, Ashira Lachem qui gaoga, se se remords à Mavayam. Qu'est-ce qu'ils répondent les Bnei Israël? Ashira Lachem. Encore une fois. Le Amen qui répondait, c'était Ashira Lachem. D'accord? Ashira Lachem, Ashira Lachem, Ashira Lachem. Bon. Un jour, on fera Bezrat Hashem un très joli...
Peut-être comme dans les musiciens américaines, il avait les
aflots. Un jour, Bezrat Hashem, on fera Bon, j'ai pas le temps, là. Aujourd'hui, j'ai pas le temps de le faire. Un très joli commentaire du Rabbi, qui explique c'est quoi le fond de la marloquette et qu'est-ce que ça change, comment chacun l'a dit. Il explique comment ça représente toute une manière différente de voir les choses selon chacun des trois avis. Bon, on n'aura pas le temps aujourd'hui de s'arrêter dessus. Peut-être à la fin du cours, quand on finira le Asiachir. Et Ashira Zet Hashem, Vayomru, les morts. Alors, vous savez que, traduction littérale de Vayomru, les morts, ça veut dire qu'ils ont dit, ils ont dit en 10 ans, hein. C'est-à-dire quoi, ils ont dit en 10 ans?
Même les morts, ils parlaient.
Quand Vayomru, les morts. Chaque fois qu'il y a écrit le mot les morts dans la Torah, ça veut dire que Dieu demande de transmettre.
Ah oui.
Alors, le problème, c'est quoi? C'est que d'habitude, c'est écrit Vaïdaber Hashem El Moshe, les morts. Ça veut dire que Dieu parle à Moshe, et il lui demande de quoi? Il lui demande de transmettre. Mais là, le problème, c'est quoi? C'est que tout le monde est là, et tout le monde l'a dit, tout le monde l'a entendu.
Ouais,
donc transmettre à qui?
Mais hier j'ai fait un passage avec mon fils là, vous savez, il dit Vaïdaber Hashem El Moshe, il est mort, quand il change son nom là, dans l'air Kacha.
Oui.
Bah il parle qu'à Moshe pour changer son nom, pourquoi il va...
Dans l'air Kacha, c'est pas Moshe, oui.
Dans Abraham, excuse-moi.
Oui. Yomer Hashem El Abraham est mort, oui.
Il lui dit, tu t'appelleras...
Très bien. Chaque fois que c'est écrit le mot, les morts, ça veut dire...
Il fallait qu'il raconte.
Voilà, faut qu'il raconte. Là le problème c'est qu'il y a personne qui racontait, puisque tout le monde était là et tout le monde a entendu.
Ah oui, tout le monde est pas
sûr. Après les morts.
Les
alors qu'est-ce qu'il dit Rachid? Les morts,
même
les dorants.
Ouais.
Pour raconter aux générations futures.
Même aux morts.
D'accord. Et oui. Donc voyons-vous, les morts, ils ont dit, mais les morts, pour le dire. Ça veut dire pour le dire quoi? Ça veut dire ils se sont dit, il faudra qu'on raconte à nos enfants ce qui s'est passé.
Il y a l'humanité peut-être aussi, non?
L'humanité, je sais pas. C'est écrit les dorants,
Rachid.
Voyons-vous, les morts. Les voyons-vous, c'est normal qu'ils ont dit. Ils ont dit la Shira. Mais pourquoi les morts? C'est parce qu'ils se sont dit, il faudra qu'on répète, c'est écrit les dorants aux générations. Peut-être que généralement c'est l'humanité aussi, peut-être. Je sais pas. En général, c'est... D'accord?
Non, mais on raconte. On n'enseignait pas, mais on raconte.
Alors, il y a même un avis qui dit que Vayomru les morts, que qui c'est qui a répété après eux, c'est les anges. Parce que rappelez-vous, chaque fois que je dis les morts, ça veut dire que quelqu'un, je dois la raconter à quelqu'un. Il y a un deuxième avis dans le Midrash, ça c'est pas écrit dans Rashi, qui dit que c'est qui les morts? Elou Amalachim. Et les Bnei Israël ont chanté la Shira, et il y a les Malachim qui ont répété après eux. Donc ils ont fait répéter les Malachim. Et bon, le pshat, c'est que Vayomru les morts, ça veut dire qu'ils se sont dit, il faudra qu'on raconte à nos enfants comment ça s'est passé, la Shrina qu'il y avait à ce moment-là. Ashira Lachem, qui ga o ga'a. Donc, Israël a dit à ce moment-là, je vais chanter. Alors, est-ce que vous avez remarqué qu'est-ce qui a changé? Peut-être, bon, c'est possible. Enfin, j'exclus pas. Vayomru les morts. Alors, on était au pluriel. On a dit Moshe et les Bnei Israël. Alors d'abord, je reprends. Moshe et les Bnei Israël à Chantra, donc c'était au singulier, ils ont dit, donc on est passé au pluriel, et après on reprend dans le pasouk suivant, Ashira, je vais chanter. Alors c'est quoi l'histoire? Le pluriel, futur, le pluriel, singulier, pluriel, de quoi on parle?
Mais Ashira, d'accord, c'est une chanson.
Non. Ashira, c'est avec un hé. Mais quand c'est Ashira, ça veut dire je vais chanter. D'accord? Je.
Ah ben, je
pourtant ils sont plusieurs. Pourtant ils sont plusieurs. D'accord? Alors de là on comprend que les Bnei Israël à ce moment-là ils avaient une hardoute exceptionnelle.
D'accord.
Que même s'ils étaient. Non, mais attendez. La Torah nous a dit une fois qu'ils étaient plusieurs pour pas que tu crois qu'il y a une seule personne qui l'a fait. Mais pourquoi à chaque fois on parle au singulier? C'est pour te dire, sache que les Bnei Israël à ce moment-là ils avaient une hardoute. Et comme on a dit, ce qu'il y a, la beauté c'est qu'ils se sont retrouvés à chanter une chanson, peu importe la méthode, comment ils l'ont chantée.
D'une seule voix.
D'une seule voix, ouais. Et sans qu'ils sont concertés avant.
C'est ça. Là, c'est vraiment d'une seule voix.
Et ça, là, vraiment, on voit que Ruach HaKodesh, Shartal et M. Que vraiment, il y a le l'inspiration divine, c'est d'accord, ça. Ils ont été inspirés. Ouais. Parce que même si tu vas dire que tout le monde répondait à Shira Lachem, d'où ils savaient que répondre à Shira Lachem, personne ne leur a dit.
Au même moment, les gens
au même moment, etc., mots. Tout le monde...
Il fallait que 600 000 personnes plus, tout le monde entend
la petite voix de Moshé. C'est pas possible. Voilà.
C'est une chorale.
C'est pas 600 000, d'abord, c'est 3 millions. 600 000, c'est les hommes de 20 à 60.
Oui, et
au moins 3 millions. D'accord.
T'as vu le brouhaha.
Donc, ils ont été inspirés.
Mais s'ils chantent d'une seule voix, il n'y a pas de brouhaha.
Je sais pas, j'ai jamais entendu.
Lui,
c'est impossible.
Vous avez déjà entendu 600 000 personnes chanter du même voix?
Amsterdam.
Non, pas Amsterdam, Alexandrie, ouais.
Là, c'est plus que ça. Les femmes aussi, elles ont chanté. Hein. Ça devait être une pagaille.
Pas une pagaille.
Il y en a qui chantaient ça, il y en a d'autres qui chantaient bourrin et tout.
Mais non, justement, c'est ça la beauté. Tout le monde chante en même temps.
Oui.
Déjà, il y a 100 000.
C'est ce qu'il dit le Midrash. Le Midrash, il dit « Afilou Ubarim Shevimrei Iman ». Il dit même les bébés qui étaient, même les embryons qui étaient, enfin les bébés quoi, qui étaient dans le ventre de la mère, eux aussi ils ont chanté. C'est-à-dire que la mère elle sentait le bébé qui... Donc, ça il raconte le Midrash, hein.
Comment ça dans les effets spéciaux.
Prends l'inverse, imagine si 3 millions de personnes qui chantent exactement
la même
chose au même moment à
l'unisson,
et à un moment...
Ah oui. C'est
la mélodie, on parle des mêmes paroles, en fait tout le monde connaissait la mélodie.
Bah oui, c'est ça.
C'est pas de l'armée rouge.
Bah oui,
la parole,
c'est ça le roi Kodesh.
C'est pas de l'armée rouge. C'est la merde. C'est l'expression
du cœur.
Alors je continue.
De la merde.
Je sais pas. C'est intéressant de quoi avaient l'air les chants de l'époque. J'ai aucune idée. De quoi avaient l'air. Non, mais c'est vrai, de quoi avaient l'air les chants de l'époque.
On a les tamim.
Non, les tamim, ça a été fait après. Ça, les tamim, c'était fait quand on a.
C'est pas l'air du chant, je croyais.
Mais même les tamim,
je sais qu'il y avait des instruments de musique, d'ailleurs on le dit juste après avec
la gamme.
Oui, mais comment ils chantaient? Quelle gamme? C'est quoi les gammes?
Ça peut pas être loin des tamim, mais là c'est ça.
Il y avait des notes, hein.
J'ai toujours pensé
que les tamim reprennent, je pense, une
tamim, c'est la tradition.
Voilà, une tradition de chose,
ouais. Sinon, ça ne voudrait rien dire quand on fait des tamim. Parce qu'à chaque fois, tellement apprendre des tamim, les Tunisiens peuvent s'entendre.
Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Alors, on y va.
La codification est récente.
Vayomru les morts. Ashira Lachem, donc je vais chanter à Dieu. Donc encore une fois, c'est un futur, hein. Donc bon, on l'a expliqué pourquoi. Ki gao ga'a, car gao ga'a, ça veut dire Dieu nous a élevés. D'accord? Alors gao ga'a.
Élevé, il nous a
élevés. Élevé, il nous a élevés. Pourquoi répéter deux fois le gao ga'a? C'est pour dire, Dieu nous a élevés, nous aussi nous allons l'élever. Mida keneged mida. Bon, en général, on ne le dit pas en varakadosh baruchou, mais comme ça, les mifarchim m'expliquent, ils disent que les venus Israël ont dit, akadosh baruchou nous a sauvés. Donc, Akadosh Baruch Hu nous a élevé, alors nous aussi on va l'élever, nous aussi on va lui chanter. Sous-entendu, peut-être qu'il n'y a pas besoin de nous, mais nous on va quand même le faire.
C'est une fierté, non, Gao Gaava?
Oui, élevé, c'est la fierté, c'est comme Gaava. Dieu nous a élevé, nous aussi on va l'élever, on va lui chanter. Sous verorvo, Rama Vayam. L'image que les Bnei Israël ont vue lorsqu'ils étaient dans la mer, ils ont vu Sous verorvo, le cheval et son cavalier. Normalement, il y a un problème, puisque si on dit qu'il était dans la mer, et que la mer se retournait dans tous les sens, normalement, qu'est-ce qui doit se passer? Normalement, le cheval et le cavalier doivent se séparer, obligatoirement.
Ouais.
Le cavalier ne peut pas rester attaché. Là, Kadosh Baruch Hu a fait un miracle. C'est quoi le miracle que Kadosh Baruch Hu a fait? C'est qu'ils sont restés sur leurs chevaux. Parce que le cheval, c'était le symbole de la puissance des Égyptiens. Et il fallait qu'Ibn Israël, visuellement, voit sur le bord de la mer, l'Égyptien sur son cheval, mort. C'était le symbole qui était important. Parce que les Bnei Israël sont ça.
Rama,
ça veut dire il a été emporté. D'accord. C'est emporté de Bayam dans la mer. Remué. Hein. Donc Rama Vayam, le miracle c'est qu'ils sont restés attachés, ce qui n'est pas possible normalement.
De quoi ils sont
morts?
C'est
une noyade, non?
Ils les ont entraînés au fond, tu vas voir. C'est magnifique.
Entraînés par la mer.
Alors
ils ont coulé comme du plomb.
Noyade, je comprends une noyade, ouais.
Comme du plomb.
Oui, donc... Oui, ils sont cassés tout.
Oui,
d'accord, mais ils sont pas morts de ça.
Ben oui, ça c'était quand ils poursuivaient.
C'est-à-dire qu'ils ont eu une mort... Oh, c'est la noyade, a priori.
Peut-être que quand la mer est fermée, ça les a...
Ils ont
noyé les enfants, mais dès qu'il y a des gamins.
Hein, quand la mer s'est fermée, ça les a écartelés parce qu'ils se sont pris quand même... C'est puissant. Et puis après, le ramas...
Ouais, ils ont dû avoir un mélange de tout.
Là, mais le courant, il l'a ramené après sur la rive. C'est ça, Rama. Remet, c'est le courant,
non? Non, Rama, là on parle pas encore du courant. Là, Rama Vayam, ça veut dire que le fait qu'ils ont... Bah, ils ont été secoués dans la mer.
Ballotés.
Quand
ça va de bas en haut, c'est Rama, et quand ça va de haut en bas, c'est plus...
Aujourd'hui, j'ai vu une très belle Agada qui a été faite il y a 2 ans en Israël, dans laquelle je crois que c'est la meilleure représentation graphique que j'ai vue de la traversée de la mer rouge. Vraiment, on voit, c'était très bien fait. On voit la mer comme ça en train de tourner avec des épices. C'est vraiment très bien fait.
C'est 2000, c'était pas mal aussi dans le commandement. On voit des chars avec des chevaux et des
gens qui sont
en matin et dans l'eau.
Alors les 10 commandements, il a
fait... J'ai pas envie de le voir parce que...
Après des rabbinim, si hein. Non, non, il a fait ouais. Tout le film avec des rabbinim.
Moi je sais que très souvent quand je donne des cours...
On voyait la baleine quand la mer s'ouvrait, pour se bien.
Il a une kippa, Moshe Rabbeinu.
On voit la baleine...
Il a les cornes,
il a les cornes.
Moi je sais que très souvent quand je donne des cours, les gens me disent « Ah, mais dans les 10 commandements, c'est pas comme ça !»
Non, il a le cadre.
Mais dans Prince d'Égypte, j'ai bien vu.
Ah, c'est des libéraux.
C'est
des libéraux aménagés.
Oui.
C'est sûr que c'est des libéraux.
On l'a romantisé, quoi.
C'est sûr que c'est des libéraux qui ont conseillé.
Hein?
C'était les rabbins de l'époque.
Alors on y va, monsieur. On fait encore un passou qu'on s'arrête. Donc, Sous Verovo Ramavayam. Ok. Rosi Vezimratka. Donc, c'est ma force. D'accord? Ça veut dire Akadosh Baruch, tu as été ma force. Ça veut dire tu m'as sauvé. Vezimratka. Et donc, Akadosh Baruch m'a rendu la chanson de Dieu. C'est-à-dire que maintenant, quand les gens ils veulent raconter, tu as vu ce que Dieu a fait? Qui c'est qui est presque comme lui? Regarde Israël, comment il les a sauvés. Donc Dieu nous a rendus, on est parti de nulle part, et en même pas une semaine, on est devenu la puissance de Dieu, et c'est l'exemple, le modèle. Quand on veut montrer un modèle, on dit, ah, t'as vu ceux-là, comment Dieu les a sauvés? Vayehi li lishua, et donc Akadosh Baruch Hu m'a sauvé, au passé. Là, vous voyez, là, c'est la première fois qu'on parle du passé, parce que jusqu'à présent, on était dans le futur. Venez Israël, Vayehi li lishua, Akadosh Baruch Hu m'a sauvé.
Parce qu'il manque des guillemets dans cette histoire.
Donc vous voyez que dans la Shira, on va pas arrêter de passer entre le passé, le présent, le futur. C'est pour dire qu'en vérité, l'impact de la Shira est un impact qui est constant. Bezrat Hashem, on expliquera la semaine prochaine comment le Midrash, il dit que Ra'ata Shifra Alaya, Mashelo Ra'a Yecheskel Ben Guzdi. Qu'une simple servante, comme on l'a mentionné, quand c'était lundi, qu'une simple servante a vu sur la mer ce que Yecheskel n'a pas vu. Mais pourtant, elle est restée servante. Pourquoi? Parce qu'après, elle n'a pas pris le temps d'analyser ce qui s'est passé. Mais ça ne change pas que tout le monde a vu à ce moment-là une shrina extraordinaire. Comme Bezrat Hashem, on aura l'occasion de développer.
Les femmes de ménage sont
un mode de fini, non?
Ah,
j'ai pas fini.
Zéli Venveu.
Zéli.
Chez moi, ils ont mis... Ah oui, c'est vrai, oui. Zekeli Venveu. Ah, pas très bien, on va rajouter ce passouk aussi, d'accord. C'est un passouk important. Alors, Zekeli Venveu.
Donc, mon Dieu.
Même les servantes, même les enfants. Ils ont dit Zekeli, voici mon Dieu. Quand on dit voici, ça veut dire quoi voici?
On le voit.
C'est-à-dire qu'on le pointe du doigt, je le vois, il est là. Et de là, ce que je vous dis, c'est que les Chachamim disent que une simple servante, et même les enfants, ils ont dit Zekeli, voilà Kadosh Baruch Hu. Et c'est écrit que lorsque Mashiach viendra, même les enfants, ils pointeront du doigt, ils diront voilà, c'est ça, c'est là. D'accord? C'est-à-dire c'est tellement évident qu'on n'a même pas besoin de nous l'expliquer. Et c'était ce qui s'est passé à la sortie de la traversée de la mer rouge. C'était Zé. Quand on dit Zé, c'est quoi la différence entre Ko et Zé? Vous savez, il y a des prophètes qui disent. En général, les prophètes disent Ko. Il dit, ainsi a dit. Bon, ainsi, ça veut dire, il faut que je t'explique ce que ça voulait dire, etc. Mais quand on dit Zé, c'est là, il est là, je le vois. Donc Zé, Kelly dit, mais voici mon Dieu, VNVU, je veux l'embellir. Ça veut dire quoi, je veux l'embellir? Alors, là, encore une fois, on a l'explication de Rashi. Le mot Navé en hébreu, c'est un surnom du Beth Amikdash. Alors, il y a une première explication qui dit que Zé, Kelly, VNVU, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Bnei Israël, à ce moment-là, à l'unisson, ils ont dit, il faut qu'on lui fasse quelque chose, il faut qu'on lui construise quelque chose à Kadash Baruch Hu. Il faut qu'on lui construise un navet. C'est quoi un navet? C'est le Beth Amikdash. Ah, c'est une première explication. Une deuxième explication qui dit que Zekeli Van Veu, ça veut dire quoi? C'est un message, d'ailleurs, c'est un passage qui ramène très souvent dans le Shulchan Aruch, pour nous dire que quand on fait une mitzvah, on a toujours l'embellir. Parce que le mot navet, ça veut dire également la beauté. Donc, Zekeli va nveu, de là, c'est un texte, c'est un passage qui ramène très souvent dans le Shulchan Aruch, pour nous dire que, etna el fanav mitzvot, il faut toujours s'embellir devant un Kadosh Baruch Hu pour les mitzvot. Et que les Bnei Israël, à ce moment-là, ils se sont dit, de la même manière que Kadosh Baruch Hu nous a fait un spectacle tellement fort pour nous, nous aussi, chaque fois qu'on va faire une mitzvah, on va le faire bien de la manière la plus belle possible. C'est pour ça que chaque fois qu'on fait une mitzvah, on va prendre le plus beau possible. Pas seulement le plus... Le hidour, la plus belle mitzvah. D'accord ? Le trog, etc. Zekeli va nous, c'est le passé qui revient toujours. Eloke avi, va romemenhu, d'accord ? Donc, Akadosh Baruch est le dieu de mon père. Le dieu de mon père, alors comme le Midrash dit, ça veut dire que les Bnei Israël sont des Kadosh, fils de Kadosh, d'accord ? Croyant, fils de croyant, pur, fils de pur, etc. D'accord ? Et donc, c'est ça quand il dit Eloke avi, va romemenhu. Les romèmes en hébreu, ça veut dire quoi? Il y a un verset dans Ezra qui dit que quand on va construire le Beth Amikdash, les romèmes et Beth Elokeinu, on va élever la maison d'Akadosh Baruch Hu. De tout ça, on comprend quoi? On comprend que déjà à ce moment-là, les Bnei Israël avaient déjà dans leur tête les prémices du Beth Amikdash.
Ah d'accord, on vient en spirale là.
Ils savaient pas encore de quoi ça allait avoir l'air. Ils n'avaient même pas encore fauté la faute du veau d'or, parce que les gens ils pensent que le Beth Amikdash c'est pas pardonné la faute du veau d'or. C'est une erreur. Que de là, on voit que déjà à ce moment-là, les Bnei Israël, lorsqu'ils ont vu ça, ils ont dit il faut qu'on construise quelque chose à Akadosh Baruch Hu. Ils avaient déjà une envie. Cette envie s'est matérialisée par la suite, par la construction du Beth Amikdash. Et aujourd'hui, notre Beth Amikdash, c'est quoi? C'est quand on du Mishkan. C'est quand on embellit les mitzvot, c'est quelque part notre petit Beth Amikdash qu'on fait pour un Kadosh Baruch Hu.